France Inter.
France Inter, il est 5h.
France Inter, William Delesseux, le 5-6.
Nous sommes le vendredi 28 février. Bonjour à toutes et à tous. C'est le 5-6 jusqu'au 6-9. Et Ali Badou, vous retrouverez donc dans une heure. D'ici là, on sera avec un pêcheur de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Une transmission des bateaux et des savoir-faire en famille. Les unes de la presse ce matin entre Gene Hackman, interview de François Bayrou dans le Figaro, l'autoroute A69, stoppée net également à la une. Notre invité déjà debout, il sera 5h44. Au bout du fil, Gaëtan Bi. À la tête de l'atelier Miss Aigle dans le Tarn, une entreprise textile familiale qui fonctionne et qui mise sur la qualité. On prendra le café et le café philo, l'intelligence artificielle au menu de Patricia Martin, sans oublier Charline Van Hoenacker, les petits bateaux et le doux assort de Cyril Lacarrière. Soyez toutes et tous les bienvenus.
France Inter.
Et place d'abord au journal. Bonjour Astrid Menyekarn.
Bonjour William, bonjour à tous.
Volodymyr Zelensky est à la Maison Blanche aujourd'hui.
Le président ukrainien à Washington pour signer un accord commercial sur l'exploitation des ressources minières de l'Ukraine notamment. Visite après Emmanuel Macron lundi et Keir Starmer hier, le premier ministre britannique. Chacun essaie de faire passer ses messages sur l'Ukraine sans vraiment de certitude d'être entendu par Donald Trump, Sébastien Paour.
Donald Trump reste sur sa ligne. Avec moi, il n'y aurait jamais eu de guerre. Et désormais, il l'assure, les progrès se poursuivent entre Ukraine et Russie. Une trêve est possible, à condition qu'elle intervienne rapidement. Je pense que nous allons parvenir à une paix très réussie, durable. J'espère que ça se fera rapidement. Si elle n'a pas lieu rapidement, elle pourrait ne pas se produire du tout. Côté britannique, Keir Starmer est sur la ligne de Paris. Il faut s'assurer que Poutine ne violera pas le cessez-le-feu. Ça ne peut pas être une paix qui récompense l'agresseur. L'histoire doit être du côté de l'artisan de la paix. Pas de l'envahisseur. Et je sais que le Royaume-Uni est prêt à déployer des troupes sur le terrain et des avions dans les airs pour soutenir un accord en collaboration avec nos alliés, car c'est la seule façon que la paix soit durable. Trop tôt pour envisager des troupes au sol qui veilleraient au maintien de la paix, répond Trump, qui veut d'abord conclure une trêve. On est proche d'un accord, assure le président américain. Londres et Paris espéraient un filet de sécurité militaire américain sur le terrain. Il faut se contenter de la certitude de Trump que Poutine tiendra parole en cas de cessez-le-feu. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et lors de cette conférence de presse avec Keir Starmer, Donald Trump s'est montré plus mesuré à l'égard de Volodymyr Zelensky. Le président américain a assuré éprouver beaucoup de respect pour le président ukrainien et qu'il qualifiait de dictateur la semaine dernière. Alors que les tractations sont en cours sur la deuxième phase de l'accord de trêve à Gaza entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne fait son mea culpa et publie une enquête interne sur l'attaque du 7 octobre. Tsahal y reconnaît un échec complet et un excès de confiance de l'armée israélienne. 4 mois après l'échec de la COP16 sur la biodiversité en Colombie, les pays du monde arrachent un compromis à Rome, un plan sur 5 ans qui prévoit de débloquer les milliards de dollars nécessaires pour stopper la destruction de la nature et mieux distribuer l'argent aux pays en développement. On y revient dans le journal de 5h30.
La Réunion passe en alerte violette à partir de 6h, heure de Paris.
Le plus haut niveau d'alerte cyclonique, la tempête Garance se rapproche de l'île de l'océan Indien. Les secours sont donc appelés à se confiner, comme la population. On attend des rafales jusqu'à 200 km/h sur l'île. 70 000 foyers étaient privés d'électricité déjà hier soir à cause de la foudre. À Toulouse, 300 à 400 opposants à la 69 se sont retrouvés place du Capitole pour célébrer la décision du tribunal administratif d'annuler le chantier de l'autoroute entre Toulouse et Castres. C'était hier soir. Pour autant, le dossier n'est pas refermé. Un peu après l'annonce de la décision hier, le ministère des Transport a fait savoir que l'État allait faire appel de la suspension du chantier. Le patron des laboratoires, Pierre Fabre, principal employeur dans le sud du Tarn, menace, lui, de privilégier des territoires d'accès plus rapides et mieux sécurisés pour y installer ses usines.
France Inter, 5h04. François Bayrou continue de mettre la pression sur les partenaires sociaux.
Après leur avoir demandé de rétablir l'équilibre du système des retraites dans 5 ans et provoquer la colère du syndicat Force Ouvrière qui a claqué la porte des négociations hier, le Premier ministre dit maintenant ne pas exclure de recourir au référendum sur les retraites en cas de blocage de ces négociations, Pierrick Bonneau.
Un conseiller du Premier ministre nous le promet, cette interview n'est pas une réponse à Force ouvrière pour une raison simple, elle a été donnée avant que le syndicat ne claque la porte des négociations. Mais en dégainant la menace du référendum, François Bayrou met la pression sur les partenaires sociaux condamnés à s'entendre. Un texte sur les retraites pourrait-il être adopté par référendum ? Oui, c'est possible, répond le chef du gouvernement, si nous étions un jour en situation de blocage. François Bayrou appelle patronat et syndicats à trouver des méthodes novatrices pour arriver à un rééquilibrage financier du système des retraites. Chacun fourbit ses armes, décrypte un proche du Premier ministre, mais au final, il va bien falloir que tout le monde prenne ses responsabilités. Lors de ses vœux il y a deux mois, le président Macron annonçait vouloir demander aux Français de trancher certains sujets déterminants. Pensait-il lui-même aux retraites ? Pas de commentaire de l'Élysée.
Pierrick Bonneau pour Inter. Toujours dans cet entretien donné au Figaro, le locataire de Matignon annonce le lancement de conventions citoyennes en région au premier semestre pour débattre de la question « Qu'est-ce qu'être français ?» Une consultation sur l'identité nationale et l'immigration. Tapis rouge ce soir pour la 50e cérémonie des Césars, édition anniversaire présentée et présidée par Catherine Deneuve qui se déroule cette année dans un contexte plutôt apaisé de retour en salle du public et de succès important pour les films français. Le roi du box-office cette année, c'est Artus, avec ses 11 millions d'entrées et son petit truc en plus, nommé dans une seule catégorie, celle du meilleur premier film.
Et les Césars, on y revient tout à l'heure à 8h20, plateau spécial avec des producteurs de cinéma. Ils seront trois pour parler des Césars. Les planètes sont alignées, Astrid, aujourd'hui.
Et ce n'est pas une façon de parler. Hein. Les 7 planètes qui, avec la Terre, composent notre système solaire, seront alignés, littéralement, c'est ce qu'on appelle une parade, et on pourra les observer à l'œil nu ou avec un télescope. Les explications de Miguel Montargès, astronome à l'Observatoire de Paris.
Quand on regarde le ciel, généralement, c'est toujours plutôt face au sud. On commence par l'ouest, ce qui se couche en premier. La première qu'on va voir est la plus brillante de tout le ciel, ce sera Vénus, qui apparaîtra comme une étoile brillante, blanche, très lumineuse. Ensuite, si on se déplace en remontant vers l'est, on va tomber sur Jupiter qui sera quasiment au zénith, donc juste au-dessus de nos têtes. Un point blanc assez brillant qui ne scintille pas sera Jupiter. Et là, avec des jumelles, on peut voir les lunes qui tournent autour. Et quand on continue vers la gauche, donc vers l'est, on va tomber sur la planète Mars qui sera très orangée. Quelque part entre Vénus et Jupiter, il y a Uranus qui se cache. Mais vraiment, à moins de savoir où elle est et d'avoir un télescope, c'est impossible de la trouver. Mercure, Saturne et Neptune sont tellement proches du Soleil qu'elles vont se coucher avant qu'on puisse les voir. Le mieux, c'est de prendre une chaise longue, de s'installer quelque part avec un plaid, de préférence actuellement, et de voir qu'on voit plein de planètes dans le ciel.
Miguel Montargès au micro France Inter de Victoire Renard de Winter. Et le phénomène ne se reproduira pas, William, avant le 19 mai 2161. On a un petit peu de temps.
Je vais prendre mon plaid alors.
Oui, vous pouvez, je pense. D'ici là, ça vous tiendra chaud. En football, on connaît le tableau des demi-finales de la Coupe de France. Dunkerque, 3e de Ligue 2, affrontera le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1 et grand favori de la compétition. Cannes, club de National 2, sera opposé à Reims, club de Ligue 1. Les deux rencontres sont programmées le 2 avril. La finale aura lieu le 24 mai. Ce sera au Stade de France, William.
Merci Astrid Meignet-Carne. Vous revenez à 5h30, à tout à l'heure, le temps de ce vendredi.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Sébastien Léas.
Un peu d'instabilité va persister entre les Ardennes, le Nord-Bourgogne et l'Alsace avec quelques averses. Cet après-midi, quelques averses apparaîtront également sur les Pyrénées, les Alpes-Maritimes et les hauteurs de la Corse. Partout ailleurs, c'est un temps sec qui vous attend aujourd'hui. La journée se passera le plus souvent sous le soleil, sur le Languedoc et entre la Gironde, la Loire-Atlantique, le Calvados et le Finistère. Entre l'Aquitaine, le Midi Toulousain et les Alpes, l'impression sera aussi ensoleillée, même si le ciel sera parfois bien voilé. En début de matinée, des grisailles retarderont l'arrivée de ces éclaircies au sud de la Garonne. Sur le reste du pays, les nuages seront plus nombreux et nettement prédominants, même si quelques trous arriveront à filtrer. Après une matinée fraîche avec quelques gelées, les températures seront aussi parfois un peu justes cet après-midi. 7 degrés à Rouen et Nancy, 8 degrés à Paris, Lille, Tours et Clermont-Ferrand, 11 degrés pour Grenoble et pour Rennes, on attend 12 degrés à Niort, Valence et à Tarbes, 14 degrés à Périgueux et Agen, 15 degrés pour Montpellier et Toulon, jusqu'à 17 degrés à Ajaccio.
France Inter. William Delesseux. Le 5-6.
Et quasiment 5h10 sur France Inter. Très bon réveil à vous. À suivre les unes de la presse du jour, les chroniques littorales. Une histoire de famille de pêcheurs de Boulogne-sur-Mer et sur la côte d'Opale, donc avec José Manuel Lamarque. D'où ça sort l'Instapoésie. Charline Vanhoenacker alias Houpette, la vache du Salon de l'Agriculture également. Voilà ce qui est à venir dans la prochaine demi-heure. Souriez, c'est vendredi.
Pourquoi tous les jours ne sont pas vendredi? On pourrait partir ensemble à Belle-Île. Pourquoi tous les jours ne sont pas vendredi? On pourrait ensemble avoir la belle vie. Allons faire un tour, les cheveux au vent. On roulera nuit et jour vers un beau bois dormant. Sans répondre aux appels, on fera du radeau. Voyageant vers Bruxelles, écoutant la radio. Pourquoi tous les jours ne sont pas vendredi? On pourrait partir ensemble à Belle. Pourquoi tous les jours ne sont pas vendredi?
Malik Djoudi sur son nouvel album Vivant. Il sera la semaine prochaine au Tetris, c'est au Havre. Et à l'Olympia, dans quelques temps, nous serons le 21 novembre. Place aux chroniques littorales à présent. Bonjour José Manuel Lamarque.
Bonjour William Delesseux.
Portrait de Jean de Mer aujourd'hui, appelé aussi les Mériens ou les Mériennes. Et ce matin, vous recevez, José Manuel, un patron pêcheur.
En la personne, William, de Bruno Margolet. Bruno Margolet, patron pêcheur. Bruno Margolet, bonjour.
Bonjour.
Bruno Margolet, on a un petit peu discuté ensemble, patron pêcheur depuis 3 siècles. Hein, c'était les corsaires du roi avant La Rochelle.
Oui, oui, on a un corsaire du roi dans la famille.
Mais pendant 3 siècles, toujours patron pêcheur.
Toujours, avec la mer, tout à fait.
Ouais, c'est ça, avec la mer. Ouais. Patron pêcheur à Boulogne-sur-Mer, qu'est-ce que c'est que la vie d'un patron pêcheur?
Déjà tout petit, j'ai toujours une passion pour la mer, pour la pêche. Monté sur le bateau de mon père, je me sauvais, parce que ma mère ne voulait pas, je me sauvais. Dès l'âge de 7 ans, j'avais fait ma première marée avec le bateau de mon père. Après, c'est un rêve d'enfant de vouloir être patron pêcheur, d'avoir son bateau.
Pour vous, la mer, c'est votre seconde nature?
On va dire ça comme ça, oui.
Combien de bateaux avez-vous eu? pendant votre carrière?
J'ai eu la chance de faire construire 3 bateaux, enfin 4 avec celui de mon père. J'ai terminé la fin de vie du bateau de mon père. Hein. C'était un bateau en bois, 19 mètres en bois classique de l'époque. Je l'ai commandé 5 ans et puis après, j'ai voulu voler de mes propres ailes. J'ai eu la chance de pouvoir faire construire 3 bateaux en Bretagne.
Et le dernier, vous avez vos fils dessus?
Actuellement, on va l'appeler le bateau familial parce qu'en fait, moi j'avais pris ce bateau-là, quand j'avais fait construire ce bateau-là en 2000, je m'avais dit en fait, je vais qu'en faire une douzaine d'années avec ce bateau-là et puis après, on prend dans sa retraite. Sauf que mes enfants ont continué. Les 3 fils, ils sont sur le bateau. L'aîné, il patronne le bateau. Le second, c'est mécanicien, chef mécanicien. Et puis le troisième, ils sont interchangeables. Hein. Ils ont tous les 3 les mêmes brevets et puis ils sont interchangeables.
Ils vous ont gardé quand même pour la compta. Hein. Ils n'ont pas envie.
Ils n'ont pas envie. C'est pas leur truc.
Quand on est patron pêcheur à Boulogne-sur-Mer, où navigue-t-on? Où part-on pour pêcher?
On navigue essentiellement en Manche. Enfin, nous, on a toujours notre secteur d'activité. C'est un chalutier de 24 mètres. Notre secteur d'activité, c'est la Manche, Manche-Est et Sud-Mer du Nord. Et on n'a jamais changé de secteur.
12 mois par an?
12 mois par an, on a toujours gardé le repos dominical.
Et le retour au port, on délivre sa pêche?
Oui.
Vous la délivrez ou vous la vendez aussi?
Oh non, on ne fait pas de vente directe, nous. Non. On met tout en cri.
Quel a été votre plus beau moment en mer?
Bonne question. Il y en a eu beaucoup de beaux moments. Il y en a eu beaucoup. Le coup de chalut qui vous fait rêver, quoi.
C'est-à-dire?
Quelques tonnes de bar, par exemple. Quelques tonnes de gabillaud. C'était vraiment une satisfaction personnelle. En fait, le patron pêcheur, c'est une remise en question toutes les semaines. Toutes les semaines, je me remettais en question.
Pourquoi ?
Si j'avais bien fait les choses, si je n'avais pas bien fait, parce que j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela.
Et il y a toujours l'épouse qui attendait ?
Toujours. C'est ce qu'on, de toute façon, on dit toujours dans la marine, la femme, c'est le gouvernail. Moi, je m'occupais, je ne me suis jamais occupé des enfants.
Ah oui, vous étiez en mer ?
En mer. Mais tout s'est bien passé, même qu'il y avait eu un problème. Tout s'est bien passé.
Il vous est arrivé un moment de ne pas pouvoir rentrer, il fallait attendre, parce que les conditions météo faisaient que non, il fallait rester en mer.
Ça a déjà arrivé, oui, ça a déjà arrivé de rester à l'abri du côté anglais ou n'importe quoi, parce que pour traverser ou suivant les coefficients de marée, c'était compliqué. Donc ça a déjà arrivé d'attendre une journée même, de dire c'est pas la peine, ça va être compliqué pour revenir au port, donc on reste suivant les vents.
Vous vous êtes mis à la cape, comme on dit?
C'est ça, à la cape.
C'est ça.
Tout à fait.
Et votre vent préféré?
Vent d'ouest, puisqu'on avait l'abri des côtes anglaises.
Ouais.
Vent d'ouest, c'était toujours... ou le vent de sud. Le vent sud, on travaillait le long des côtes françaises, entre le Cap Griné et Dunkerque.
Alors maintenant, vous laissez pêcher vos fils, mais vous, personnellement, vous avez aussi un bateau pour vous faire plaisir.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais je vous assure, je ne fais pas de pêche.
Ah bon? Pas
ah
du
non,
tout
non, non. Ah non, 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 je fais le lézard, comme on dit. Puis c'est tout, c'est un petit bateau pour vraiment faire la promenade.
Merci à vous, Bruno Margolet. Alors, si on passe du côté de Boulogne, on voit le Nicolas Jérémy.
Oui.
C'est votre bateau.
Oui.
Il suffit d'aller dire bonjour.
Tout à fait, avec grand plaisir.
Merci à vous, Bruno Margolet. Bonne journée, William Delesseux.
Merci beaucoup, José-Manuel Lamarque.
Le 5-6. Sur France Inter.
5h18, la une de vos journaux ce matin, un entretien qui est à la une du Figaro. François Bayrou donne une interview quasiment de politique générale, bras de fer avec l'Algérie, réforme de l'État et retraite. En cas de blocage sur ce dossier des retraites, le référendum est une issue, est une option, estime le Premier ministre. Le syndicat Force Ouvrière a claqué la porte des premières consultations. D'ailleurs, hier, François Bayrou réaffirme que si personne ne se met d'accord, on en restera au système antérieur défini en 2023 avec la réforme Borne, c'est-à-dire départ à l'âge légal de 64 ans. François Bayrou exclut toute baisse des pensions des retraités. Dans le Figaro, page saumon, c'est le rappel d'une nouvelle note qui doit tomber ce soir, celle de Standard & Poor's, de l'agence de notation sur la situation financière de la France. Actuellement, elle est de A-, et l'agence avait menacé de dégrader la note avant de se raviser. Qu'en sera-t-il cette fois-ci? Réponse dans la soirée. Autoroute A69, coup de massue à présent pour la Dépêche du Midi avec une photo des graviers de ce chantier qui est désormais à l'arrêt avec tous les points d'interrogation qui restent encore en suspens au lendemain de la décision du tribunal administratif qui a rendu illégal ce chantier de la voie express, très critiqué par des citoyens et des défenseurs de l'environnement. L'État va sans surprise faire appel de cette décision du tribunal. S'affiche ce matin dans la presse la mort suspecte de l'acteur américain Gene Hackman et de son épouse, la pianiste Betsy Arakawa. Disparition dans des circonstances troubles à Santa Fe, d'après la police. Alors en attendant l'enquête, Libération rend hommage à ce grand nom d'Hollywood, visage pensif en noir et blanc. Il faut ouvrir le journal page 20
pour retrouver une image mythique, celle de French Connection, le film de 1971, signé William Friedkin, Gene Hackman, revolver à la main. L'artiste de 95 ans avait remporté 2 Oscars, dont un pour French Connection. Et puis, un entretien en une de l'équipe, Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, au moment où la Ligue et le diffuseur DAZN ont trouvé un accord pour continuer la retransmission des matchs. Vincent Labrune répond à toutes les questions. Voici à présent Cyril Lacarrière dans le 5-6. Dans Zoom Zoom Zen, on parlait de la poésie sur les réseaux sociaux et entre autres de ce qu'on l'on appelle, Cyril, l'instapoésie.
C'est là que vous allez voir comme les choses sont bien faites. À quoi sert Manon Mariani dans cette émission ?
À illuminer, beaucoup de choses, je vous remercie.
À illuminer nos journées de son éternelle bonne humeur.
Ah, oui.
Oui, mais pas seulement. Son rôle, c'est de scruter les réseaux sociaux pour détecter les tendances qui m'ont déniché les sujets de demain. Jusqu'ici, on était plutôt dans le domaine de l'emploi fictif, mais aujourd'hui, tout change. Tout change. Aujourd'hui, on le sait, cette mission est remplie. 31 mai 2023, au micro de France Inter.
Il y a une vraie communauté qui s'est créée autour de la poésie sur les réseaux. L'exemple le plus probant est celui de la Canadienne Rupi Kaur, une poétesse de 30 ans qui a lancé le mouvement des instapoètes.
Bingo,
belle voix.
Oh là là.
D'où ça sort l'instapoésie ? Eh bien de cette Canadienne d'origine indienne, Rupi Kaur. C'est elle qui a démocratisé ces dernières années la poésie sur le réseau social et grâce à Instagram, elle vend désormais des millions d'exemplaires de ses livres et elle remplit même des salles. Rupi Kaur, c'est 4,5 millions d'abonnés sur Instagram, 10 millions d'exemplaires de ses 2 premiers livres traduits dans plus de 40 langues. Et c'est un titre, celui de reine des instapoètes décerné par le magazine Rolling Stone en 2017. Logique de notre époque, Rupi Kaur s'est muée de poétesse en véritable reine du business, des t-shirts, des sweatshirts et autres goodies divers et variés, comme quoi la poésie mène à tout. Alors, cette instapoésie, est-ce que c'est de la vraie poésie ? Est-ce qu'il y a de la bonne et de la mauvaise poésie ? Verlaine, aurait-il publié ses vers sur Instagram ? Est-ce que cette instapoésie, c'est un premier pas vers un livre ?
Eh bien, les réponses dans le replay de l'émission à réécouter sur le site de France Inter ou sur l'appli Radio France. Et n'oubliez pas Zoom Zoom Zen, c'est à 16h cet après-midi, 5h22. Curves.
Annie Mignanas avec Prisoner of Beauty, le duo des PO, des Pyrénées-Orientales, a invité Bobby Gillespie, le chanteur britannique de Primal Scream. Et le courant est très bien passé puisqu'ils ont enregistré en deux prises seulement.
France Inter.
5h25, rendez-vous avec Charline Vanhoenacker tous les matins. Dans le 7-10, vous le savez, elle explose les faits. Mercredi, retour sur le Salon de l'Agriculture, la place importante de l'intelligence artificielle dans les techniques agricoles. Et qui de mieux pour en parler que Houpette, la vache star du salon?
C'est moi la vache chérie. Je suis une vraie vache. Hein. Non, c'est juste que je suis une vraie geek, moi. C'est bien simple, quand je suis arrivée au Salon de l'Agriculture ce week-end, j'ai demandé deux trucs, de la paille et le code Wi-Fi. Ah, vous croyez quoi, vous, hein? Qu'on allait regarder passer le train de l'IA sans monter dedans, hein? Alors moi, je suis née en 2015, j'ai 10 ans, donc je fais partie de la génération Internet. Nous, on est nés avec les écrans, nous. Et depuis quelques temps, l'exploitation où j'habite est survolée par des drones aussi. Bon, ça me dérange pas, c'est comme des mouches, mais des très grosses qui volent très haut. J'adore être entourée de toutes ces machines. Ça clignote, ça bipe de partout. Vous verriez mon box à la ferme, on dirait l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Ça me galvanise. Oh là là, quand c'est l'heure de la traite, moi je suis là, en route pour la Voie lactée. Alors, non mais je vois les parents au Salon de l'Agriculture avec leurs enfants. Mais t'es sûr que tu veux travailler dans l'aérospatiale? T'es brillant en informatique, deviens éleveur comme le monsieur. Alors aujourd'hui, les exploitants utilisent toute la palette de l'IA pour gérer leur ferme. Avant, on se basait beaucoup sur les connaissances des anciens, avec les proverbes. Aujourd'hui, on demande au ChatGPT agricole. ChatGPT-table. Et puis, quand ça marche pas pour les proverbes, on demande à Marie-Pierre Planchon. Alors c'est très pratique ces IA, elles sont capables de savoir précisément le temps qu'il va faire, de détecter les maladies, plus besoin de passer mes journées sur Doctissimeux. Oh, on gagne du temps, un temps fou, c'est des blagues de niche. Hein. Alors les éleveurs aussi, le mien maintenant il peut parfois se permettre une grasse matinée jusqu'à des 5h30 du matin, hein. ça vous fait rêver Nikos. Hein. L'IA le libère pour pouvoir se concentrer sur des tâches plus importantes, comme par exemple aller manifester contre le mépris du gouvernement. Alors les exploitants profitent de l'automatisation pour discuter avec l'IA aussi sur les cours du blé, l'évolution du marché dans leur département, ou comment survivre avec 500 euros par mois. Hein. Alors nous à l'exploitation, on a choisi un système qui nous permet de gérer et d'optimiser les performances agronomiques, tout en gardant de la flexibilité grâce à une collecte de données multisources et une interopérabilité totale, quoi, vous voyez. Oh, on en a parcouru du chemin depuis l'invention de la charrue, hein. Ça, c'est les ados qui l'ont bien compris. S'ils veulent passer leur journée sur leur téléphone, il faut venir bosser à la ferme. Parce que nous, on a su accompagner aussi les évolutions de l'époque. Regardez cette année au Salon de l'Agriculture, je suis accompagnée par un coordinateur d'intimité. Non. C'est pour les visiteurs qui voudraient me tâter le cul.
Non.
Bah, ils vérifient que je suis OK. Alors aujourd'hui, pour être un bon agriculteur, il faut pouvoir mettre les mains dans la terre et puis aller se les laver pour pouvoir mettre les mains dans la tech.
France Inter.
Charline Vanhoenacker du lundi au jeudi à 9h45 et demain samedi à 19h20 dans Bistroscopie. Les infos dans 30 secondes.
Bonjour, c'est Jérémy Ferrari.
Bonjour, c'est Arnaud de sa mère.
Bonjour, c'est Baptiste Le Caplin.
Retrouvez-nous ce lundi
de 20h à 22h en direct sur France Inter pour une libre antenne du trio avec au programme Baptiste.
Oh bah, il y aura des surprises, il y aura des guests et puis surtout, il y aura vous les auditeurs, fans du trio ou pas. Vous pourrez nous appeler, nous poser des questions et peut-être qu'on vous fera gagner des trucs.
Il y a tellement d'enthousiasme dans ta voix.
Donc ce lundi de 20h à 22h, on se retrouve sur France Inter. Jérémy, un mot de la fin?
Non.
France Inter 5h29, nous serons avec le premier invité de la journée, déjà debout, Gaëtan Billan, qui dirige l'atelier Missec dans le Tarn. Chaussettes et pulls en laine, c'est encore de saison. Au programme, aujourd'hui, vous dire un mot du 6-9 d'Ali Badou dans une demi-heure. À 6h20, l'ultra-trailer Mathieu Blanchard sera notre invité. À 7h45, le débat éco. Thomas Porcher et Dominique Seux débattent de la 69 et de la mise en pause forcée du chantier par la justice hier. À 8h20, grand entretien spécial, 50e cérémonie des Césars. Nous recevons les productrices, producteurs Muriel Ménard, Hugo Sélignac, Dimitri Rassam. Et sur France Inter, pour l'instant, il est 5h30 dans une poignée de secondes. Les infos, Astrid Meignet-Carne et un compromis trouvé, Astrid, à la COP16 sur la biodiversité.
4 mois après l'échec des négociations en Colombie, les participants sont parvenus à un accord hier soir à Rome. Un calendrier étalé sur 5 ans avec l'objectif de 200 milliards de dollars par an pour la protection de la nature, Bruno Duvic.
So is it adopted?
Il y a bien eu le coup de marteau, symbole du succès d'une COP, au grand soulagement des participants. Car c'est en novembre dernier qu'on attendait le marteau. Mais faute d'accord à l'époque, il a fallu une nouvelle session cette semaine. Ce qui bloquait, c'était la création d'un nouveau fonds pour la biodiversité. Les pays pauvres le voulaient, y voyant des financements en plus. Les pays riches refusaient. D'autres fonds existent. On risquait d'éparpiller l'argent. Le compromis, c'est un calendrier sur 5 ans, le temps d'approcher des 200 milliards et de voir si un nouveau fonds est nécessaire. Adopter aussi le cadre pour suivre les mesures des différents pays pour protéger la nature. Les ONG pourront demander des comptes, indicateurs à l'appui. L'avancée n'est pas énorme, mais dans un contexte de crise du multilatéralisme, un échec aurait été délétère. Le travail reste colossal. En plein effondrement de la biodiversité, l'objectif est de préserver 30% des terres et des mers d'ici à 2030. On est à 17% pour les terres, à 8% pour les mers.
Bruno Duvic, correspondant à Rome de France Inter. Un autre accord attendu aujourd'hui entre les États-Unis et l'Ukraine. Donald Trump reçoit son homologue ukrainien à la Maison-Blanche pour signer un contrat commercial sur l'exploitation des ressources minières du pays. Les deux chefs d'État vont aussi aborder la sécurité de l'Ukraine en cas de traité de paix avec la Russie.
Des tractations sont en cours sur la deuxième phase de l'accord de trêve à Gaza.
Israéliens, Qataris et Américains sont en train de négocier au Caire. Des négociations intensives, dit l'Égypte, notamment sur la poursuite de l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Hier, la première phase de l'accord de trêve s'est terminée avec la restitution des corps des derniers otages tués à Gaza et la libération de plus de 600 prisonniers palestiniens. La tempête Garance se rapproche encore de l'île de l'océan Indien. La Réunion passe en alerte violette dans une demi-heure, à 6h heure de Paris, le plus haut niveau d'alerte cyclonique. En France, les arbitres d'élite du football menacent d'exercer leur droit de retrait en cas de nouvelle atteinte à leur sphère privée, les mettant en danger eux ou leurs proches, ce sont leurs mots. Déclaration du syndicat après les propos du président de l'Olympique de Marseille qui avait accusé de corruption l'arbitrage. L'arbitre visé par ces accusations a depuis été la cible d'une vague de harcèlement en ligne. Pablo Longoria, président de l'OM, a lui été sanctionné, suspendu pour 15 matchs.
Et c'est la grand-messe du cinéma français. C'est ce soir.
Et oui, 50e cérémonie des Césars, présidée par l'iconique Catherine Deneuve. Parmi les films qui s'affrontent pour le titre de meilleur film, meilleur scénario original et meilleur acteur, le film En fanfare, nommé dans 7 catégories. Et parmi ceux qui attendent le plus son sacre ce soir, il y a les musiciens de l'harmonie des mineurs de Lalin, près de Douai, dans le Nord. Ils ont joué leur propre rôle de musicien dans le film d'Emmanuel Coursol. Alors forcément ce soir, ils auront les yeux rivés sur le petit écran, Vanessa Lamar.
Ah, ils sont totalement fans. Ils ont vu et revu le film. Pascal Dumont est trompettiste et trésorier de l'harmonie.
Moi, personnellement, 7 fois. La Recordman, c'est ma femme. Elle a fêté sa 10e fois la semaine dernière parce qu'on voulait le revoir une fois sur grand écran.
2, 3, 4.
Ce film, le tournage, Cannes, la Star Academy, les avant-premières resteront gravés dans l'histoire de l'harmonie.
On aura, en plus de la musique, ces souvenirs-là à partager ensemble, d'un moment hors du temps. Ça a donné de nous une image qui, je pense, représente l'esprit des fanfares. Et ça, c'est très fort.
Alors, sans aucun doute, En fanfare mérite récompense pour Émilie, qui joue de la flûte traversière.
Après Cannes, les Césars, voilà. S'ils en auraient un chacun, ce serait bien, mais bon.
Émilie qui reste bouleversée, les larmes aux yeux quand elle repense à toute cette aventure.
Pourquoi nous? Pourquoi notre harmonie? Enfin, à Cannes, c'était des messages. Maman, t'es où? Maman, qu'est-ce que tu fais? Les avant-premières, pareil. On a fait la Star Academy. Une très belle expérience.
Une expérience inoubliable qui a aussi permis à l'harmonie de progresser énormément, selon la clarinettiste Marie Krasik.
Ça a été assez exigeant pour satisfaire Emmanuel. Hein. Du coup, ouais, c'est vrai qu'on a bien progressé.
Depuis le film, l'harmonie de Lalin croule sous les demandes de prestations.
Vanessa Lamar, d'ici Nord, le film qui est toujours à l'affiche a dépassé 7 semaines, les 2,5 millions d'entrées, William.
Merci beaucoup Astrid Menier-Carne et bonne journée à vous.
À
le
vous
temps
aussi.
De ce vendredi, c'est entre nuages, parsemés d'éclaircies sur une grande partie de la France ce matin, couvert dans l'est des Vosges à l'Alsace, avec de la neige par endroits. À basse altitude, prévient Météo France, le ciel est clair sur la pointe bretonne, ça se couvre dans l'après-midi du nord au sud pour se dégager de nouveau durant la soirée. Un vendredi finalement très variable, vous l'avez compris. Les températures sont un peu plus fraîches qu'hier sur la moitié nord, de 5 à 7 degrés, 6 à Rouen, 5 à Nantes, 5 dans le Lyonnais, 4 à Belfort. Cet après-midi, ne misez pas sur une remontée des températures, à peine 7 degrés à Lille avec des averses possibles le long de la frontière belge, 9 à Cherbourg. Dans le sud, comptez 15 degrés à Montpellier et 16 degrés en Corse. C'est parti, on va dans la playlist maintenant.
Le 5-6 sur France Inter.
Bonjour Mathieu Conquet.
Bonjour William.
Ce matin Mathieu, vous nous parlez de la nouvelle star du rap anglais, Central Cee.
Oui, écoutez ça. No Introduction, c'est le premier titre du premier album, c'est le premier de Central Cee qui est sorti il y a quelques semaines. No Introduction, il n'a plus besoin d'être présenté en Angleterre en tout cas, mais peut-être qu'en France, si. Alors chez nous, les Victoires de la Musique viennent de passer. En Angleterre, les Brit Awards, c'est demain soir et Central Cee y est nommé 3 fois. Meilleur artiste hip-hop, rap, gram, mais aussi artiste de l'année. Son duo avec Lil Baby est nommé en chanson de l'année. Alors qui est Central Cee, celui qu'on entend derrière, c'est Oakley Neil Caesar Sue. Il est né en 98, il a 26 ans, il vient du West London, il s'est fait connaître avec ses mixtapes, avec un flow aussi tranchant que drôle, positif, sans autotune dans son cas, ce qui est rare dans la drill. Et c'est ce genre, hein, vous savez, de trap qui est un peu plus pesant, plus ralenti et souvent violent. Mais pas dans son cas, lui, il mise plutôt sur le décalage. Écoutez ce son qu'il a fait connaître dans le monde entier. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top track, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day.
Doja, comme Doja Cat, la chanteuse dont parle ici Central Cee en 2022.
Mais oui, il résonnait dans toutes les playlists de l'été en 2022, ce son sur un sample d'un morceau qui était sorti 20 ans plus tôt, Let Me Blow Your Mind de Eve. Hein, vous savez, c'était un classique des années 2000. Central Cee parle de violence sociale, mais aussi beaucoup, beaucoup des femmes qui l'intéressent. Encore une fois, c'est l'une de ses particularités. Il ne chante pas que les mérites de la vente de drogue, mais plutôt ses histoires personnelles, même si bien sûr, il aime bien enjoliver un peu. 100 eaters, it won't fit in one SUV. Nah. SOS, somebody rescue me. I got too many, and I got. They could last me the next 2 weeks.
Alright. Trop de copines, elles ne rentreront jamais dans la voiture et dans le SUV en l'occurrence, que raconte Central Cee.
Voilà, Sprinter, c'est le son qui en 2023 lui a fait atteindre la première place des charts en Angleterre. Premier rappeur anglais à avoir atteint le 1 milliard de streams en moins d'un an. Premier rappeur britannique à obtenir un disque d'or en France. Alors les fans français ont pu l'entendre en duo avec Ninho et puis par exemple aux côtés de Drake sur un freestyle. Dans son nouvel album, le premier donc, Kent Rush Greatness, on ne saurait précipiter la grandeur, on croise plein d'invités dont son ami Dave, avec qui il faisait ce duo qu'on entend là, 21 Savage, Skepta aussi, mais là on va l'écouter seul, dans un freestyle, sans refrain, où il raconte sa vie, son parcours de livreur, de dealer, qui est devenu maintenant un modèle pour les jeunes, top freestyle. It's lonely at the top, lot of people are watching and want me to flop. I'm telling the kids if I can do it, then anyone can. Car came from none, one stop and search away from the block. In this life I don't feel fear, only man that can make me afraid is God. Negative press on a shade room, anything good it don't make the blocks. They did a set at the table, when it was chicken shop, now steak and lobster, edamame and pan-Asian cod. My first bedroom smaller than a jail cell, now the crib's on a 10-acre block. First time I committed a crime was petty, I couldn't afford what the trainers cost. First time I saw crack, I was just 16, witnessing that at that age was wrong. Detached myself from every emotion, hoping I'll get my paper long. One brick phone, one iPhone, no SIM, listening to the same old song. I'm jumping the barriers, if the inspector get on the train, I'm gone. Now the whip that I'm in's an impatient one, put my foot on the gas when the light goes amber. Try touch me and guns will shoot, we don't do kung fu and fight like panda. My guy's a convicted criminal, so he got a hide from cameras. All of my bitches pretty as hell, I could start up a beauty pageant. How'd I end up all the way in Clapham? I started my day in NW2. Delivering food direct to your door, you can leave a review like Deliveroo. Sticks outside for a special occasion, Nankon hit, that's everyday shit. Gotta thank God that I never did. Dark and light did sell it in two.
Before I got an invite to my Rubens all white party, 4th of July. I was sat in a trap with a pack all night. Cocaine fragrance, weren't dressed in white. 15 minutes away from the shop, but I said that I'll get there in less than 5. It gives me the ick when girls come around and try too hard to impress the guys. I sat and I told the Sony exec, if you give me a 10 for a tape, I'll sign. Everything's gonna come to an end when I counted the M, I was on cloud 9. If it weren't rap, I would've been a pimp. I look at a bitch and I see pound signs. Plus 1,000 aura, even if I don't talk, they'll feel our vibe. Label execs don't care if we're murderers, as long as your catalog's bringing in revenue. They'll sign you, and when you go broke, I end up in jail, they're quick to forget you. I can't worry about album sales, I got serious shit that I'm trying to get through. How can they talk down on my name for trying to get paid? I'm playing a chess move. GTA, I'm using cheat codes. Cheat at school and exams, I'm fucked. I cheat on my wife, but how can you blame me? I cheated life. I wasn't supposed to make it this far. I got no grades, I ain't even wise. Walk down Uxbridge Road, I reckon that one in three of these people high. Supply and demand, that's how I get by. She telling me how trap boys are tight. I'm trying to not get too used to the life. I'm staying inside, avoiding a hype. So many gal that are wanting to fuck, I'm turning them down, they're wondering why. I'm not chalant, not shy. My entourage top 5. I'm probably one of the, I've gotta be one of the greats.
Central C, Top Freestyle, c'est à retrouver dans la playlist de France Inter.
C'est bien, hein. Et puis il vient d'annoncer sa première tournée mondiale en France. Ce sera à l'Accor Arena de Paris le 13 avril 2025 pour Central C.
Et avant ça, on le retrouve ce soir avec vous, Mathieu.
Oui, il y aura Central C avec les autres nouveautés à ne pas manquer, côté rap, électro et rock. Bien sûr, je vous parlerai notamment de l'excellent documentaire sur Led Zeppelin qui est sorti mercredi en salle. Et je remets le son à 21h à ce soir.
Alors à tout à l'heure, merci beaucoup Mathieu Conquet. Et c'est un endroit où on est bien obligé de s'arrêter parfois. Les déchetteries et tant d'objets jetés dans les bennes, rouge, bleu, vert, jaune, correspondent à ce que l'on jette. Des objets qui peuvent raconter notre histoire et nous interroger sur la manière dont nous consommons. Brouillard hivernal, nous sommes ce matin dans une déchetterie de Reims. Le feuilleton de la France, épisode 70, signé Cécile Bidot avec au générique Patrick, Vincent, Gracinda et Doukali.
Le feuilleton de la France,
épisode 70,
à Reims.
Sous son bonnet rouge, Patrick, retraité, affronte le froid pour vider le coffre bien rempli de sa petite voiture grise sans âge qu'il déplace de benne en benne.
Il y a donc des tissus, il y a des cartouches d'encre, des piles, et aussi, je ne sais pas s'ils ont, on a des bouchons en liège. Il doit y avoir un bac spécial pour les bouchons en liège. Ils sont recyclés. Voilà, c'est des gestes, je dirais des micro-gestes. C'est une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est satisfaisant en ce sens qu'on dit qu'on optimise un peu son empreinte sur la terre. Quoi. On essaie un petit peu de compenser ça. Regardez tout ce qu'il y a là. Il y a des choses qui sont encore intactes. Tout un tas de choses qui auraient pu être réutilisées. C'est un peu dommage.
Il peut y avoir des trésors dans les déchetteries.
Alors oui, il y a déjà une vingtaine d'années, j'allais jeter des vieux papiers et je suis tombé sur un livre de prières qui doit dater du début du XXe siècle. Il est absolument magnifique et on peut s'imaginer qu'il aurait terminé en charpie si j'avais pas été là.
Patrick n'a pas abandonné l'idée de retrouver le propriétaire du livre sauvé de la déchetterie. Une lettre coincée dans ses pages lui a permis de comprendre qu'il s'agissait d'un cadeau d'un grand-père à son petit-fils.
Bah, de toute façon, ce genre d'objets, ils partent, mais bon, les souvenirs restent, hein, comme on dit souvent.
À la sortie de la déchetterie, voici Vincent, blouson de cuir et bague à chaque doigt. Il vient de faire le tri dans la maison qu'il rénove.
Il y avait des vieux fauteuils de bureau, il y avait des vieux radiocassettes des années 80, il y avait enfin voilà un petit peu toutes sortes d'objets qu'on entasse, qui ne nous ont jamais servi et qu'on est obligé d'amener à la déchetterie. Quoi. La société consomme énormément de choses dont elle n'a pas besoin, que ce soit les habits, que ce soit dans mon domaine les portables, avec des prix bas, avec les Black Friday, les Green Monday, les Noël, enfin tout ça, quoi, ça nous fait consommer, surconsommer. Quoi. La déchetterie, ça nous fait comprendre qu'on jette beaucoup, ça veut dire qu'on consomme beaucoup. Quoi.
La camionnette blanche de Gracinda et Doukali, couple de quinquagénaires accompagnés de son chien, vient aussi de s'alléger de quelques meubles et ustensiles de cuisine, car la maison familiale est en travaux.
Là, on se sent libéré, soulagé, propre, tout, voilà, comme si on avait pris une bonne douche.
C'est la maison de ma mère qu'on a rachetée. Là, il y avait vraiment des meubles auxquels on tenait, quoi.
C'est une vie, en fait, c'est une histoire qui est racontée. Alors oui, quand on se débarrasse de certaines choses, ça fait, bon, ouais, ça fait un petit pincement au cœur.
C'est humain, quoi, d'avoir de la mémoire et d'être nostalgique de ce qu'on a vécu, d'ailleurs, tout simplement.
Dans le temps, les anciens, quand ils avaient, par exemple, un canapé, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Nous, maintenant, on a cette possibilité, au bout d'un moment, oh, bah tiens, on n'aime plus trop cette couleur, j'en ai vu un plus beau.
Après, on se retrouve devant votre micro à expliquer pourquoi on arrive à la déchetterie. Parce qu'on achète trop, bah oui, on achète trop, ouais.
Ça doit être ça, inconsciemment, je pense que c'est peut-être la peur de manquer. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident, d'une maladie, et de se retrouver vraiment dans la misère. Ça fait peur.
Mais il y a quand même des bonnes choses. Regardez, de pouvoir s'exprimer, il y a des pays où on ne peut pas parler. Hein, donc c'est bien de pouvoir en parler de tout ça.
On dénombre plus de 4600 déchetteries en France qui collectent 16,5 millions de tonnes de déchets ménagers chaque année.
Cécile Bideau pour ce feuilleton de la France à retrouver comme tous les autres sur l'appli Radio France. Et tout à l'heure à 7h13, nouvel épisode, nous serons à Caen.
France Inter, William Delesseux, le 5-6.
5h46, 6h moins le quart, l'heure de contacter notre invité déjà debout. Bonjour Gaëtan Billan.
Oui, bonjour William.
Bonjour, directeur général de l'atelier Missaigle, spécialisé dans les fibres naturelles. C'est à Burlatz, dans le Tarn. Un atelier de textile, vous allez tout nous raconter. Vous êtes déjà levé ce matin pour faire tourner cet atelier, je crois.
Oui, c'est ça. En fait, on démarre tôt, on démarre à 5h45. C'est les tricoteurs qui arrivent en premier. Il y a deux équipes après qui vont se relayer, donc de 5h45 jusqu'à 20h ce soir.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour lancer cette journée de travail qui vient donc tout juste de démarrer?
Là, il y a deux personnes qui sont arrivées. Il y a Jacques et Jonathan. Il y en a un qui tricote donc des pulls, pulls accessoires mitaines, et l'autre qui tricote des chaussettes. Donc, c'est de relancer toutes les machines. Il y en a une grosse vingtaine aux pulls et une grosse trentaine aux chaussettes qui se sont arrêtées hier soir à 20h. Et donc là, il faut les relancer, refournir en fil et voilà, recommencer la production.
Et c'est des machines qui ressemblent à quoi? C'est des métiers à tisser géants. Ça ressemble à quoi pour décrire un petit peu aux auditeurs?
Alors en fait, on est un atelier de tricotage, pas de tissage, et c'est des machines qui sont plutôt petites. Les machines à chaussettes, ça fait un mètre carré à peu près. Il y en a une trentaine, et sur les métiers à tricoter les pulls, ils font les plus gros font jusqu'à 2,50 m de large, mais voilà, c'est pas quelque chose d'immense. Ça reste des petites unités, mais par contre, c'est vraiment des bijoux de technologie. C'est des machines à la pointe et qui sont un concentré de technologie.
Vous nous parliez des chaussettes. J'ai entendu. C'est quoi votre production concrètement?
Alors nous, en quantité, vous voulez dire?
Non, qu'est-ce que vous produisez concrètement?
Ok. On tricote donc des chaussettes. On est spécialisé dans les fibres naturelles. Donc on a d'abord commencé par des chaussettes en laine, et maintenant en fait on a développé plein de chaussettes en coton, en fil d'Écosse, toujours bio. On a développé il y a 5 ans des chaussettes les plus solides du monde. Avec un ajout de Cordura qui garantit en fait une longévité bien supérieure à des chaussettes normales.
Le Cordura, c'est une matière qui permet de renforcer la fibre.
Oui, en fait c'est une sorte de polyamide. Après bon, la chaussette reste majoritairement en fibre naturelle, donc que ce soit du fil d'Écosse, de la laine, mais cet ajout de polyamide, donc dans des proportions quand même assez faibles, va apporter en fait à cette chaussette une résistance, une longévité vraiment exceptionnelle. Et donc on les a comparées par rapport à des chaussettes un peu partout dans le monde, et il s'avère que nos chaussettes sont les plus solides du monde. Voilà, donc on n'en est pas peu fiers.
Comment vous arrivez à ce que votre entreprise textile soit rentable? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la crise textile en France, qui n'est pas nouvelle. Comment vous arrivez à être rentable?
On a, nous, une démarche un peu particulière, parce qu'en fait, ça vient de l'histoire de l'entreprise. C'est mes parents qui ont créé l'entreprise il y a 41 ans, qui étaient ingénieurs agronomes. Donc, leur idée au début, c'était de monter un élevage de chèvres et de valoriser la fibre en produit fini et de la vendre en direct. C'était ça leur idée de base, donc, dans les années 80. Et donc, on est vraiment encore sur ce modèle-là. C'est-à-dire que, bon, la ferme, maintenant, c'est plus anecdotique, mais on a cette relation, en fait, en direct avec les clients, avec de la vente à distance, ce qui fait qu'on maîtrise tout le réseau de distribution, et le fait d'avoir intégré après la production au fur et à mesure, c'est-à-dire les chaussettes, parce que notre fabricant de chaussettes a fait faillite en 2007, donc du coup on a été forcé de le de le reprendre. Et notre fabricant de pulls qui était en difficulté en 2013, donc ce qui fait qu'on a intégré la production à notre entreprise et donc on maîtrise quand même beaucoup nos, enfin une grande partie de notre chaîne de production, quoi.
Et donc concrètement, on peut vous trouver en ligne, c'est-à-dire que les consommateurs peuvent directement voilà acheter votre production.
Oui, c'est vraiment même notre cœur de métier, hein, c'est la vente à distance, donc en ligne et aussi par téléphone ou catalogue. Et voilà, en ligne c'est sur missaigle.com et trouver toute l'année. Voilà.
Et en un mot, les consommateurs sont très attentifs au sourcing, c'est-à-dire d'où viennent leurs pulls, les fibres qu'ils composent. Gaëtan Billan, où est-ce que vous vous fournissez?
Alors en fait, c'est aussi notre passé d'éleveur qui nous pousse à aller au plus près des zones de production et au plus près des éleveurs. Donc, on est rentré l'année dernière d'un voyage en Mongolie où on a été chercher donc directement auprès des éleveurs, hein, des nomades mongols, où on a été chercher du duvet de yak et du duvet de chameau. Donc voilà, on a ce souci d'être au plus près des éleveurs pour trouver les plus belles fibres et aussi pouvoir garantir à nos clients en fait une vraie traçabilité.
Cette proximité. C'est là que vous leur proposez. Merci beaucoup Gaëtan Billan, directeur général de l'atelier Missaigle. C'est à Burlatz dans le Tarn. Place maintenant au petit bateau sur France Inter. Toutes les questions ont leur réponse avec Camille Cronier et ses invités. Aujourd'hui, c'est Louise qui est un peu tête en l'air.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, PNC aux portes, armement des toboggans et vérification de la porte opposée.
Bonjour, je m'appelle Louise, je voudrais savoir comment l'avion a été inventé. J'ai 6 ans.
Eh bien, ma petite Louise, c'est une aviatrice qui va t'expliquer. Catherine Monoury, vous êtes présidente de l'Aéroclub de France.
Oui, bonjour Louise. Eh bien, tu vois, je crois que voler, ça a toujours fait partie du rêve des humains. Parce qu'on peut marcher, on peut danser, on peut nager dans l'eau, on peut tout ça. Mais voler, on ne peut pas. Comment est-ce qu'on allait faire pour voler? On a essayé d'imiter l'oiseau et puis on s'est aperçu que ce n'était pas valable, qu'on ne pouvait pas battre des ailes, nous, qu'on n'y arriverait pas. Donc on a fait des planeurs, les gens se jetaient de but et puis petit à petit, le moteur est arrivé. Les premiers vols ont fait quelques petits sauts. Puis, petit à petit, on a pu décoller. Ça a été très, très vite.
Alors, Catherine Monoury, moi, j'aimerais bien savoir qui est ce « on ». C'était quand et c'était où?
C'est beaucoup de monde. Il y a eu d'abord tous les ballons. Puis
à quelle époque?
Les ballons, tout le 19e siècle. Début du siècle. Du 20e siècle. 1903 est officiellement fait le premier vol par les frères Wright aux États-Unis. Mais en réalité, et c'est la force de notre pays, tout se passe presque en France. Et d'ailleurs, les frères Wright vont venir. Et Santos Dumont, qui était très connu, qui était un Brésilien, mais qui s'est installé en France aussi, eh bien, il est venu aider en 1906, premier vol à Bagatelle. Il croyait faire le premier vol, on a compris après que c'était les Américains. 1909, ce qui est extraordinaire, Louis Blériot traverse la Manche, pouf, 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 1h30, il est en Angleterre. L'Angleterre n'est plus une île, dit-on, ça va très vite. 60 ans après, ce qui est presque rien, 1969, le 747 vol, vous imaginez la progression, 500 personnes à bord. La même année, le Concorde fait son premier vol, 3 heures pour New York. La même année, on marche sur la Lune. Vous vous rendez compte, le saut de l'humanité à ce moment-là?
Et alors, pour revenir sur les débuts, j'imagine forcément qu'il y a dû avoir des essais et donc des échecs.
Beaucoup d'échecs.
Un échec pour faire voler un avion, c'est fatal quand même.
Pas toujours. Ah pas toujours, parce qu'à l'époque, on volait lentement. On ne savait même pas piloter, on n'avait pas compris qu'il fallait de la vitesse. Donc on tirait sur l'avion en se disant, il va monter comme ça. Puis après, petit à petit, on a commencé à tout comprendre. Mais il faut savoir que maintenant, ou à cette époque-là, on fait au mieux avec les connaissances qu'on a. C'est-à-dire que maintenant, quand vous mettez en l'air, je ne sais pas, le 380, il y a une réunion tout le monde en se disant, est-ce qu'on est au mieux? Est-ce qu'on a bien tout préparé? Les gens qui ont financé, qui voudraient que ça vole parce que ça va coûter cher, il faut le vendre. Les ingénieurs qui l'ont inventé, tout le monde est là. Il y a un tour de table, on se dit, est-ce qu'on peut y aller? Et à ce moment-là, on y va parce que dans l'état actuel des connaissances, on fait ce qu'il y a de mieux. Peut-être que 10 ans après, on se dira, ah là, si on avait su ça, on ne l'aurait peut-être pas fait. Eux, c'est ça. Sans arrêt, ils décollent un peu, pouf, ils tombent. Et Lienta disait, il secouait un peu la poussière, il disait, il faudra voler et tomber, il faudra voler et tomber jusqu'à ce qu'on tienne en l'air. Et on a tenu en l'air.
Et vous, en tant que pilote, vous auriez aimé être dans les premiers, que ce soit au début du XXe siècle ou même premier sur A380, il faut un petit peu de courage et d'audace.
Non, je suis très heureuse de ce que j'ai eu. Je ne suis pas un pilote d'essai. Parmi les pilotes d'essai, c'était terrible. Rosanoff, les grands pilotes d'essai, Jacqueline Auriol, c'est un miracle. qu'elle se soit pas tuée. Elle a eu un de ses vols où elle a failli y rester. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, mais les gens ont continué quand même. Moi, je suis très, très satisfaite d'avoir eu un avion déjà tout prêt qui marchait bien, parce que j'aime voler. Mais ils ont été remarquables, et ils le sont toujours.
Ouais, les pilotes d'essai, donc courageux. Hein. Et courageuses.
Et courageuses, il y en a, ouais, bien sûr, bien sûr.
Et merci les parachutes. D'ailleurs, tiens, qui les a testés en premier? Ah ben, je vais appeler les petits bateaux. Salut les matelots.
Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
Et tout à l'heure, bien sûr, après le flash de 20h, 6h-5.
France Inter. Le 5-6.
Et c'est le Café Philo. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour William Delessé.
Au programme ce matin, un sujet vertigineux, la conscience, la subjectivité, mais aussi l'empathie et d'une manière plus générale, notre vie mentale.
Alors vous avez bien raison de souligner qu'il y a de quoi avoir le vertige, l'avantage. Alors l'avantage des savants, et surtout s'ils sont généreux et qu'ils ont envie de partager leur savoir, eh bien c'est qu'ils expliquent les choses simplement.
Alors c'est le cas du professeur Lionel Nakache, neuroscientifique et neurologue bien connu.
Des auditeurs de France Inter, évidemment, et pas que. Alors laissez-vous guider, il vous tient la main pour vous emmener dans les dédales de ce qu'il appelle notre cinéma intérieur et vous montrer le chemin à suivre entre déterminisme sociaux et contraintes neurobiologiques. Nos subjectivités sont au centre de sa réflexion, vous l'aurez compris, et ce, à un moment particulier de notre histoire, où nous sommes confrontés à la fois à des défis politiques, économiques, sociaux, mais aussi environnementaux. Notre cerveau est d'une certaine manière codé, nous possédons une vraie carte mentale, et c'est du reste une des plus grandes découvertes des neurosciences cognitives.
Le cerveau qui participe grandement à notre intelligence, c'est cette même intelligence qui nous a permis d'en créer une artificielle, l'IA.
Et dans le domaine médical, on réalise à présent des implants cérébraux, et ça c'est un véritable progrès, c'est indéniable. Mais lorsque l'implant cérébral peut s'appliquer à un individu en bonne santé, alors ça, c'est quand même une autre paire de manches. Et c'est pourtant ce qui se profile. Pour Lionel Nakache, ChatGPT par exemple, c'est une technologie tragique. C'est même pas un humanisme, puisque l'essence de son langage précède son existence, et pourtant, eh bien son utilisation devient banale.
ChatGPT, Adam, 19 ans, jeune courtier en patrimoine, l'utilise pour tout.
Pour répondre à des mails, je demande à ChatGPT de me créer une réponse. J'utilise pour énormément de questions. Quand j'ai mal à la tête, je demande à ChatGPT qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux. Voilà. Si jamais je fraude le métro, qu'est-ce que je risque, par exemple?
Chez les jeunes, ChatGPT a remplacé Google. Ils s'en servent principalement pour trouver des infos en ligne, tout type d'infos.
Autre exemple.
Zinedine, 20 ans.
J'étais amoureux d'une fille. Je voulais savoir comment l'aborder. Je lui ai demandé à ChatGPT. Ce qu'il m'avait suggéré, pour le coup, c'était d'aller la voir et de lui proposer une clope. Parce qu'elle fumait dans ma description. Du coup, il m'avait proposé de lui proposer une cigarette pour aller plaire à cette fille.
Pour sa fille, à 22 ans, ChatGPT, c'est presque devenu obligatoire.
Mais 18-25, on n'a pas le choix de s'y mettre. Et c'est un gain de temps pour tout. Et même, ça nous évite de demander à tout le monde, etc.
Et tu pourrais faire ça aujourd'hui?
Je pourrais faire ça, il n'y avait pas avant. Mais je prendrais plus de temps pour plein de choses. J'embêterais des gens.
Comme Saphir, près d'un jeune sur trois utilise aussi une IA pour prendre une décision d'achat et un jeune sur quatre pour l'aider à rédiger un post sur les réseaux sociaux.
Un commentaire, mon cher William?
Mais c'est absolument vertigineux. Lionel Nakache sera ce soir votre invité dans leur philo à partir de 20h10. Il publie un livre chez Odile Jacob intitulé « Sujet, es-tu là ?»
Et à ses côtés, le philosophe Nathan Devers qui avait sorti un livre autobiographique absolument formidable, « Penser contre soi-même », c'est publié chez Albin Michel. « Penser contre soi-même », c'est accepter de sortir des chemins battus, et ça, l'intelligence artificielle ne le peut pas.
Merci Patricia Martin.
Merci à vous, William.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Et le temps de ce vendredi, c'est avec vous. Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour William, bonjour à tous.
Un ciel couvert sur le quart nord-est du pays.
Oui, ce matin, les nuages rentrent par les frontières du nord, entraînant quelques averses des Hauts-de-France au Grand Est, neigeuses en basse altitude, et ils se propagent vers le bassin parisien, le massif central, la Bourgogne-Franche-Comté, le centre et la Normandie, tandis que la Bretagne et le Nord-Poitou-Charentes restent ensoleillés à l'écart. En allant vers le sud, c'est plus lumineux, même si les nuages bas commencent à recouvrir le Pays basque et le midi toulousain. Limousin, comme la Provence et la Corse, où ils sont épais et plus élevés. Tout ça dans une ambiance fraîche, avec quelques gelées localisées en plaine, comme à Guéret-Saint-Laurent, où Météo France relève à moins 3 degrés ce matin.
Et cet après-midi, les températures sont également en baisse.
Oui, elles plafonnent à 9-10 degrés en plaine, sous les nuages bas du Nord, qui avancent jusqu'au Pays de la Loire, en laissant toujours les éclaircies à la côte atlantique et aux côtes de Manche, pour atteindre jusqu'à 15 degrés dans le sud du pays, avec l'aide du soleil qui brille entre Bordelais et Golfe du Lion. Au-dessus de la Provence, la Corse et les Pyrénées, en revanche, le ciel continue d'être nuageux avec encore quelques averses.
Merci beaucoup Magali Rochereau et à tout à l'heure. Le 6-9 dans quelques secondes avec vous Ali Badou. Bonjour Ali.
Bonjour William.
Au programme ce matin.
Au programme de ce vendredi, il sera question du débat éco autour de l'A69 et la mise en suspension forcée du chantier de cette autre route très controversée. Rendez-vous avec Dominique Seux et Thomas Porcher à 8h moins le quart et à 8h20, grand entretien spécial César avec les producteurs et les productrices des films les plus attendus ce soir au théâtre dans la salle mythique du...
Je crois que c'est à l'Olympia ce soir.
C'est exactement à l'Olympia, c'est sur Canal+,
c'est une salle
également.
Mythique.
Et c'est une salle mythique. Merci en tout cas William Delesseux, bonne journée.
Bonne
Merci
journée à vous.
Vous de vous réveiller avec nous sur Inter ce 28 février, il est 6h.